J'ai commencé à lire vraiment sous les tables scolaires d'abord, et puis sous les tables des repas, par exemple. Et puis j'ai continué comme ça, en tournée, par exemple, à lire dans des trains, alors que mes amis musiciens parlaient de musique, de technique. Et j'associe vraiment le fait de lire avec une pratique qu'on fait par en dessous, à côté, en décalage, toujours un peu en contrebande. Et donc par effraction, ça me parle, quoi. C'est-à-dire, on n'attend pas qu'on nous ouvre, on y va.
Vous écoutez Par effraction, le podcast qui fait entendre les murmures de milliers de livres peuplant l'une des plus grandes bibliothèques d'Europe, la BPI, au Centre Pompidou à Paris. Ce podcast est proposé par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Aujourd'hui, je rencontre Blandine Rinkel, l'une des invitées du festival Effraction en 2025, pour son récit « La faille » chez Stock. Romancière, musicienne, autrice d'essais et de romans, dont le plus récent s'appelle « Vers la violence », distingué par le Grand Prix des lectrices de Elle, Blandine Rinkel dit avoir grandi au futur antérieur, hantée par la phrase « J'aurais essayé la famille et puis un jour j'en aurais fini ». Dans « La faille », son nouveau récit, elle lance une bouteille à la mer adressée à toutes celles et ceux qui n'appartiennent pas à leur propre famille, ces exilés intérieurs ou égarés vifs qui créent d'autres liens, inventent leur filiation.
Bonjour Blandine Rinkel.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va bien et vous?
Effraction.
Devant la bibliothèque, je retrouve Blandine, frigorifiée mais heureuse de passer cette matinée de Saint-Valentin en ces lieux, comme elle me l'a dit par mail avant d'arriver.
Comme il fait aussi soleil, j'ai failli en réalité vous acheter une fleur.
Oh, c'est adorable.
Et je suis pas passée là devant. Je me suis dit ce serait bonne aloi, mais.
Mais l'intention me touche beaucoup.
Avant d'entrer, j'explique à Blandine la règle du jeu. Elle a toute la bibliothèque pour elle.
Trop bien, j'adore les bibliothèques. Non mais vraiment, un amour très profond, très. Mon amour des livres passe d'abord par l'amour des bibliothèques.
Et exceptionnellement, elle peut même emprunter des livres pour les amener au studio d'enregistrement et me dire ce qu'ils représentent pour elle. Seule contrainte, ardue pour une lectrice insatiable comme elle, elle doit se limiter à 3 livres, pas un de plus.
Je vais relever le défi.
On y va ?
On y va.
Blandine, entrer dans une bibliothèque par effraction, c'est un peu un rêve pour vous ?
Oui, surtout que j'associe vraiment le fait de lire, la pratique littéraire, je dirais, je l'associe à quelque chose qu'on fait en contrebande, qu'on fait par effraction, qu'on fait sous la table. Vraiment lire un livre alors que les personnes autour de soi ont d'autres activités, c'est ce que je préfère, mais de loin. Et je m'arrange en fait pour avoir cette pratique-là de la lecture, donc ça me parle, c'est une expression qui me parle.
Là, on est entouré d'enfants. Dès l'enfance, vous étiez grande lectrice ?
Ouais, ils ont trop de chance, hein. Franchement. Oui, dès l'enfance, assez tôt, parce que j'ai appris à lire assez tôt. Ma mère avait pas forcément une grande lectrice, mais elle estimait quoi, la pratique culturelle, parce qu'elle-même, en fait, elle vient d'une famille paysanne assez pauvre, et je pense que le fait de s'intéresser aux langues, etc., l'a permis quand même d'aller voir ailleurs, d'aller voir le monde. Donc moi, elle m'a appris à lire très tôt. Et donc j'ai appris à lire tôt et à nager. À lire et à nager. Non mais vraiment, c'est les deux activités qui m'ont été données tôt et pour le coup par mes parents. Et en fait, j'allais à la médiathèque tout le temps. Il y avait 2 bibliothèques dans à Rosé, là où j'habitais. Il n'y avait pas de librairie. Donc pour moi, c'était les livres, c'était évidemment la bibliothèque, évidemment la médiathèque. Et c'était un lieu aussi où je pouvais traîner. Bah, comme les enfants qu'on vient de voir, où je pouvais rester, m'avachir sur un coussin. Ma mère me disait, je reviens dans 2 heures. Et ça, c'était une grande chance, quoi, de pouvoir... Je sais pas, barboter au milieu des livres. Il n'y avait pas grand monde en plus dans cette bibliothèque. La Noël, elle s'appelait. Je les adore, si jamais ils entendent ce podcast. Non, mais c'est vrai, ils m'ont vraiment permis de lire sans me préoccuper. Oui, c'est vrai, du coup, parce que sinon, ça aurait été trop cher. Et on avait une petite bibliothèque chez nous, mais c'était pas. La maison n'était pas l'endroit où il y avait tous les livres, mais la bibliothèque, c'était soudain un paradis, quoi.
Ouais. Blandine a repéré à l'avance où étaient rangés ses 3 livres préférés. Elle va m'y emmener. On doit parler moins fort dans la salle de lecture, mais je lui demande de nous faire deviner les titres qu'elle a choisis, en chuchotant.
Alors, il y en a un qui nous donne envie à la fois de rire et de mordre. Un livre plein de dents, je dirais.
Attendez, on va d'abord aller attraper celui-là en essayant de ne pas se faire mordre. Il vous a pas mordu ?
Non. Mais ça m'aurait pas dérangé.
Le deuxième livre.
C'est un livre avec des phrases longues et fluides. Et ça commence à l'aube, ça se finit au crépuscule. c'est le livre le plus important de ma vie. Wow. Alors pour le troisième, c'est un livre plein d'une ironie féroce. C'est un livre qui a permis à son auteur de passer de l'angoisse à la colère.
C'est corsé vos indices, hein ?
Ouais.
C'est par là ?
Oui, c'est ici.
On a les livres.
On a les livres. C'est immense quand même. C'est vrai, elle est immense cette vieille collègue. Dans mon enfance, elle était toute petite, quoi, la bibliothèque. Mais un truc que j'ai découvert à Paris, et c'était pas du tout le cas ni dans mon enfance ni dans mon adolescence, c'est la bibliothèque comme lieu de drague, comme lieu de séduction. Alors que vraiment, pour moi, c'était lieu de la grande solitude. Et quand je suis arrivée à Paris, je me suis dit, ah oui, d'accord, en fait, les gens viennent se montrer, s'échanger des regards. Enfin, et puis on se retrouve, l'air de rien, la machine à café.
C'est un lieu où on chuchote, en plus.
Ouais, tout court, ouais. Non, c'est assez érotique. Hein. C'est un potentiel érotique, quoi. Encore faut-il l'habiter, mais ouais.
En route pour la chenille du Centre Pompidou, qui nous emmène au studio d'enregistrement. Cette série d'escalators, labyrinthe mécanique ouvert et fermé, ressemble un peu à la famille, telle que Blandine l'a décrit dans son nouveau roman.
La faille, Blandine, c'est votre nouveau récit, et c'est un livre dans lequel vous cherchez à écrire un mot en entier. Lequel ?
Le mot famille, mais... Si je m'appliquais vraiment, je pourrais l'écrire avec un M. Mais c'est vrai que quand je n'y pense pas, inconsciemment, comme ça, quand j'écris le mot famille à la main, bah, je mange le M et on lit faille. Bah, ça dit quelque chose d'un rapport compliqué à ma propre famille, mais aussi peut-être à la notion de famille. Et j'essaye d'explorer ça dans ce livre, de comprendre quel est ce non-dit autour de la famille qui m'habite depuis toujours, peut-être.
Vous écrivez que c'est le sujet sur lequel vous écrivez le plus parce que c'est le sujet sur lequel vous n'arrivez pas à écrire.
Oui, je pense que c'est toujours ça. Enfin, moi, j'adorerais écrire sur autre chose, mais et j'espère en être capable. Mais à ce stade, je travaille ce qui me travaille et il m'a fallu, en tous les cas, 4 livres, je crois, pour arriver à la fin de cette phrase qui concerne la famille. Quoi. Là, j'ai quand même l'impression là qu'il y a un point. Il y a un point au bout de la phrase et que je vais en ouvrir une autre. Je l'espère, en tous les cas.
C'est un livre qui prône l'inventivité dans les liens de filiation, mais aussi l'inventivité dans l'écriture. Est-ce que les deux sont liés ?
Oui, parce que c'est moins, finalement, mais il a fallu que j'écrive le livre pour m'en rendre compte, c'est moins un livre sur la famille, parce que ça veut tout et rien dire, que sur une certaine norme familiale qui peut exister. Et je crois que c'est un livre pour déjouer la famille quand elle devient une norme impérieuse, quand elle devient un roman unique, un récit unique qui est imposé à tous les membres, à tous ses membres. Et c'est vrai que pour moi, une manière de le déjouer, c'est de retrouver des langues inventives, de retrouver des récits. Je crois que c'est une façon de proposer une pluralité de récits possibles contre l'idée que, par exemple, il y aurait un chef de famille qui tiendrait le récit et que si on pense des choses un peu à côté, si on désire des choses un peu à côté, voilà, il vaut mieux pas en parler au repas, par exemple. Moi, si, moi, je suis pour qu'on réouvre des récits, je suis pour qu'on pluralise les récits.
C'est un livre qui est entièrement tissé de vos lectures et des films que vous aimez, des personnes que vous croisez, que vous aimez. C'est impressionnant, en fait, le nombre de romans, de livres. On a l'impression, en fait, que toute la littérature, finalement, ne parle que de ça.
Non, parce que je pense qu'on pourrait prendre un autre angle. On pourrait soudain lire toute la littérature à l'aune, par exemple, de l'amour ou à l'aune de la détresse. Enfin, moi, quand j'ai trouvé l'angle pour écrire La Faille, cette paranoïa s'est mise en route et j'avais l'impression, en effet, que tous les livres que j'avais lus depuis ma naissance, finalement, travaillaient cette question-là. C'est une paranoïa d'écrivain, quoi. Mais moi, j'aime bien ça. J'aime bien cet état paranoïaque où on a l'impression que tout nous renvoie au sujet qu'on est en train de travailler. Je trouve que c'est quelque chose d'assez plaisant. Et ce qui est sûr, c'est que je suis constituée autant de rencontres humaines et d'événements très concrets que j'ai vécu dans ma vie que de lecture. Enfin, pour moi, il n'y a pas une distinction à faire entre une rencontre avec quelqu'un, avec un ami, et une rencontre avec vraiment un auteur, une autrice dont la voix compte. C'est des rencontres qui sont aussi vraies, aussi fructueuses, aussi durables, en fait, l'une que l'autre. C'est-à-dire que ma rencontre avec Virginia Woolf, qui n'a aucune idée du fait qu'on s'est rencontrés, bien sûr, mais je sais que ma rencontre avec elle, par exemple... C'est une rencontre, je pense, qui a irrigué du désir, certaines vitalités pour toute ma vie.
Alors là, on entre dans ce qu'on appelle dans ce podcast la salle des machines.
J'adore. Typiquement le genre de lieu dans lequel je me sens bien. C'est vrai. Bah, en fait, typiquement, se cacher là, donc là, on voit des grands cartons, on voit c'est un peu bricolé, il y a des escabeaux, le bruit aussi des machines, une sorte de grand objet, une corbeille sur laquelle est marqué pompier, voilà. Typiquement, je me dis se cacher dans cette salle avec un livre, un long livre de Richard Powers, par exemple. Bah, c'est vraiment ma manière de voir la lecture, quoi. Se planquer un peu et puis partir avec des personnages qui n'ont rien à voir avec le contexte dans lequel on est, ça me plairait beaucoup.
C'est exactement ce qu'on s'apprête à faire. Donc on entre dans le studio. Blandine, quel est le premier livre que vous avez choisi ?
Le premier livre que j'ai choisi, c'est Les Vagues de Virginia Woolf. J'ai l'impression de me parler sans cesse de ce livre, mais je sais pourquoi j'en parle sans cesse, parce que c'est un livre qui a été vraiment révélateur en fait, dans mon adolescence. Je pense que j'ai dû le lire la première fois à 16 ans, et je ne l'ai pas lu en sachant que Virginia Woolf était une grande écrivaine anglaise. Je veux dire, je ne connaissais rien, je suis tombée sur ce livre. Je pense justement dans une bibliothèque d'ailleurs. J'en ai partagé la lecture avec une amie, et en fait on en connaissait carrément des extraits par cœur. Et c'était un de nos livres qui était comme un mantra. Vraiment, on en lisait des bouts, on se déclamait des bouts comme une prière, comme un mantra. Ça nous rappelait à la vie, je pense, ça nous donnait vraiment envie de vivre. C'est un livre qui raconte la vie de 6 personnes, 3 hommes et 3 femmes. On va les suivre, en fait, vraiment de l'aube de leur vie au crépuscule de leur vie. Et leurs vies sont entremêlées, c'est des monologues intérieurs qui s'entremêlent, et c'est entrecoupé d'apartés très poétiques, purement descriptives. C'est un livre, je crois, autant sur la vie que sur la mort, parce que les deux sont indémêlables, parce qu'on se sent très vivant quand on sait que ça va finir, quand on sait qu'on va mourir. Peut-être que c'est le livre qui m'a le premier appris que la littérature pouvait faire ça. C'est-à-dire que quand même dans la littérature, il y a de la souffrance, il y a de la fin des choses, il y a de la mort, etc. Et c'est pour ça qu'on se sent si vivant en lisant. C'est vraiment un livre, là en parlant, je l'ouvre comme ça. je l'ouvre, je lis 3 phrases au hasard. Maintenant, la paresse et l'indifférence nous envahissent, les autres nous frôlent. Nous avons perdu conscience de la proximité de nos corps qui se touchent sous la table. J'aime aussi les hommes blonds aux yeux bleus. La porte s'ouvre. Elle continue de s'ouvrir. La prochaine fois qu'elle s'ouvrira, ma vie sera changée. Je peux l'ouvrir n'importe où. J'ai l'impression que les phrases sont adressées pour moi, qu'elles me parlent toujours du moment que je suis en train de vivre. Là, ce que je viens de lire, c'était page 101. Et c'est vraiment aussi un livre d'amitié. Pardon.
Dans La Faille, vous dites que c'est dans la littérature queer que vous avez trouvé les exemples les plus fondateurs de récits de filiation alternative. Est-ce que vous rangez Virginia Woolf dans la littérature queer ?
Ah, c'est une bonne question. Bah, on pourrait, je crois, parce qu'elle a eu une grande histoire enflammée, enflammable, avec une poétesse anglaise qui s'appelle Vita Sackville-West. Et je me souviens que ça me réjouissait aussi beaucoup parce que Virginia Woolf a vécu avec un homme qui s'appelle Leonard Woolf et qui a lui-même d'ailleurs écrit sur son épouse. C'est très beau parce qu'on a beaucoup parlé des femmes d'eux et c'est le récit d'un homme d'eux. Et en même temps, qu'elle vivait avec cet époux et qu'elle l'aimait. Vraiment, ça ne fait aucun doute, quoi, qu'il y avait de l'amour profond qui circulait entre eux. Bah, elle avait une relation très, très intense. Et je reprends les mots d'Hélène Giannettini dans son livre « Un désir démesuré d'amitié », mais une relation dite « déviante », c'est-à-dire qui dévie, en fait. Qui dévie de la norme, qui dévie de ce qui est attendu, avec cette Vita Sackville-West. Et alors, pour le coup, elle ne minimise aucune des rencontres qu'elle fait. Elle ne minimise rien d'une électricité qui passe d'un regard à l'autre, qui déclenche tout un monde dans le monde. Tout ça existe très très fort, quoi. Tout ce qui se passe sous la surface, tout ce qui se passe en un clin d'œil, tout ça mérite qu'on écrive des pages et des pages dessus. Et ouais, elle m'a, je pense, révélé ce que pouvait être l'écriture, une promenade sous la surface, une manière vraiment de, je reprends un titre d'elle, mais de traverser les apparences et de sentir que la vie, en fait, est tellement plus riche que ce dont on a conscience quand on parle vite de ce qu'on a fait. Tiens, j'ai mangé, j'ai vu machin. Non, c'est pas seulement ça qui s'est passé. Il s'est joué, en fait, des milliers de choses dans chaque instant. Et c'est vrai que c'est... Et en même temps, jamais, jamais mièvre, jamais naïve, jamais toujours aussi très en prise avec la souffrance, avec les injustices, avec la difficulté d'être.
Les Vagues de Virginia Woolf, c'est paru en 1935, traduit de l'anglais en 1937 par Marguerite Yourcenar, mais la version que vous avez entre les mains est traduite par Cécile Watchbrod en 2008 chez Christian Bourgois. Quel est le deuxième livre que vous avez choisi, Blandine ?
Le deuxième livre que j'ai choisi, c'est Mars de Fritz Zorn.
dans sa nouvelle traduction par Olivier Lelay. Il y a une vraie différence entre... Je l'ai lu dans les deux traductions. Je dis de quoi parle le livre avant de parler des traductions, parce que c'est peut-être un peu niche de commencer par la traduction.
Il est préfacé par Philippe Lançon aussi,
Ouais, celui-là. Super préface. Qui m'a appris des choses... Enfin, un livre, c'est vrai, n'est jamais... On ne l'a pas épuisé en le lisant, quoi. Il faut encore qu'on entende les autres nous en parler et qu'on ait le point de vue des autres au sujet du livre. Donc, c'est un récit qu'un homme fait... à la trentaine, alors qu'on lui annonce qu'il a un cancer et qu'il va mourir sans doute sous peu. À ce moment-là, un moment qui aurait pu être laminant et qu'il l'est sans doute, il retrouve une espèce de vitalité inattendue par une forme de colère et d'ironie qui se déclenche au moment où on lui apprend qu'il est malade. Et en fait, il va écrire un livre, le premier et le dernier de sa vie, contre et sur sa famille et son milieu bourgeois. Il vient de l'aristocratie, enfin pas de l'aristocratie, je crois, mais de la haute bourgeoisie de Zurich. Et il va écrire un livre pour faire sauter tout le milieu dont il provient, parce qu'il a ce sentiment que finalement, c'est à force d'avoir été obligé de ravaler qui il était, ce qu'il désirait, c'est à force de ça qu'il a développé un cancer. C'est évidemment pas quelque chose de scientifique, hein. Ça ne dit rien sur le cancer, ça dit quelque chose sur un homme qui s'est amoindri, qui s'est volontiers mutilé lui-même, qui s'est retenu pour se conformer à ce que son milieu attendait de lui, et qui, alors qu'il apprend qu'il va mourir, se dit « je vais pas me retenir, et je vais écrire ce livre ». Et donc peut-être je peux lire le début. « Je suis jeune, riche et cultivée, et je suis malheureux, névrosé et seul. » Je suis issue d'une des toutes meilleures familles de la rive droite du lac de Zurich, qu'on nomme aussi la rive dorée. J'ai reçu une éducation bourgeoise et me suis montrée sage toute ma vie. Ma famille est passablement dégénérée. Aussi suis-je sans doute affligée de lourdes tares héréditaires et détériorée par mon milieu. Bien entendu, j'ai aussi le cancer, ce qui découle logiquement de ce que je viens de dire. Début frontal. C'est un livre qui, quand je l'ai lu la première fois, m'a dynamisée à l'évidence. Je me suis dit, ah oui, d'accord, un livre peut être ça aussi. Ça peut nommer de manière très frontale comme ça, sans faire de concession. Il y a une forme de radicalité dans le livre qui m'a plu tout de suite. Et puis, sur la longueur, j'avais quand même l'impression d'une sorte de ressassement, d'une forme quand même de ressentiment, quoi, de la part de Fritz Zorn, qui m'avait un peu lassée. Puis c'est un livre que j'ai repris, et notamment avec la nouvelle traduction, en fait, d'Olivier Lelay. Et je l'ai lu très différemment, comme quoi il faut aussi relire les livres à différents âges de la vie, parce qu'on voit finalement l'enfant qui est en colère et qui n'a pour arme pour dire sa colère que l'éducation qu'il a eue. Donc en fait, c'est un peu un... Il voudrait tout détruire, il voudrait être très radical et tout défoncer, et en même temps, il le fait un peu avec un petit 1, petit 2, petit 3, voilà ce que mes parents ont fait. Donc il y a un truc qui est très touchant, parce qu'en fait, finalement, il ne peut écrire que comme on lui a appris aussi à écrire. Et pourtant, il trouve une forme de radicalité là-dedans. C'est à la fois très poli, en fait, bizarrement, dans le type d'écriture. Je veux dire, c'est pas du Dépente, c'est autre chose, en fait. C'est du Fritz Zorn, c'est une écriture quand même assez classique, et parce qu'il n'a... C'est ses armes. Il a reçu une éducation classique, mais il va mettre toute son éducation au profit de sa colère.
Mars de Fritz Zorn, c'est paru en 1979, traduit de l'allemand par Olivier Lelay, dans la collection Du Monde Entier chez Gallimard. Le troisième livre, Celui qui mord, c'est...
Celui qui mord, c'est Croire aux fauves, de Nastasia Martin. Nastasia Martin raconte que le 25 août 2015, elle a été mordue par un ours dans les montagnes du Kamchatka. Bon, bien sûr, c'est une anthropologue qui se fait mordre par un ours, mais... Par-delà ça, c'est soudain deux mondes qui se rencontrent, qui n'étaient pas censés se rencontrer. C'est pas un récit de traumatisme, ou c'est pas un récit de « elle n'a pas été victime d'une morsure ». Enfin, c'est pas du tout comme ça qu'elle le raconte, c'est pas du tout ce champ lexical-là. Et c'est au contraire la découverte de ce que ça peut être de devenir une femme, moitié ours, de devenir une femme d'une sorte d'autre espèce, de devenir peut-être ce qu'elle appelle dans « À l'Est des rêves », un autre livre, un trickster, c'est-à-dire une figure dont la définition, c'est d'échapper à la définition. C'est de déborder un peu du cadre, de déborder un peu du cadre dans lequel elle serait censée être. Et ce que j'aime vraiment dans ce livre... Bien sûr, c'est ça, ce sens de la déviation, de l'imprévisible, de l'inaccompli aussi dont elle parle. Mais c'est aussi le fait que c'est par ailleurs un récit très précis, très exact sur les hôpitaux, par exemple, par lesquels elle est passée. Et c'est aussi un récit documentaire, en fait, sur réellement qu'est-ce que c'est que se retrouver soudain dans la gueule d'un ours et ensuite être soignée. Voilà, c'est un récit très exact et en même temps, c'est un récit d'une poésie
infini et dont les pages vous hantent longtemps après l'avoir lu. Et j'aime bien ce mélange de manière générale, je crois, dans les livres. J'aime bien les livres qui sont très précis, très exacts, obsédés par ça, quoi. Et bizarrement, à force d'exactitude, il y a une étrange poésie qui arrive.
Croire aux fauves de Natacha Martin, c'est paru dans la collection Verticale de Gallimard en 2019. Je précise que ces livres figurent dans une des listes que vous nous offrez à la fin de votre livre, dans une annexe que vous avez appelée les 50 livres à habiter, qui forme un peu le générique littéraire de votre récit. Merci Blandine Rinkel.
Merci à vous.
C'était Par Effraction, le podcast produit par la Bibliothèque publique d'information, réalisé par Lorraine Malka. Musique originale, David Federman. Et si ce podcast vous a plu, merci de le faire savoir en vous abonnant et en ajoutant des cœurs et des étoiles. À bientôt !